Voilà, on m'a demandé de parler un peu en fin de journée. J'ai à peine eu le temps de préparer, mais enfin bon, ça mûrit dans la tête. Hein. Je voudrais reprendre un petit peu des choses qu'on a entendues tout au long de ce week-end. Je voudrais développer cinq points. Hein. Enfin, pas, ça sera pas long, comme à chaque fois. J'espère. Bon. D'abord, j'ai été très très marqué par ce que nous a dit Patrice sur le Christ humilié, le Christ sans moyens. Ça m'a beaucoup frappé parce que dans notre formation, dans notre jeunesse, on insistait beaucoup sur le Christ ami. Misenquast, enfin, vous voyez, le Christ proche de nous, humain, qui se fait vraiment un ami de nous, quoi. Et l'aspect du Fils de Dieu, je le trouvais, enfin, en vivant, en continuant sur ces chemins-là, quoi, où on, enfin, dans le Christ ami, il y a des choses formidables du style... la Samaritaine, où Jésus prend le temps d'écouter, de cheminer avec elle, et tout ça. Bon, vous voyez, tout ce qui est beau, quoi, dans le Christ ami. Et tout ça, c'est vrai. Mais j'en oubliais le côté Fils de Dieu, le côté du Dieu Tout-Puissant. Bon, donc j'ai remis ça un petit peu en cours de ma vie en place. Et puis là, paf, je tombe sur le Christ humilié. Et c'est vrai que dans ma prédication, dans la vie de l'Église et tout ça, on a beaucoup insisté sur le Christ glorieux, quoi, le Christ ressuscité, bon, le Christ qui lève les bras, qui se détache de la croix. Et on a toujours du mal à parler de ce Christ humilié, appauvri, sans moyens, face au grand prêtre, bon. Et donc ça m'a beaucoup marqué. Le Christ s'est fait pauvre. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et puis, le texte des Philippiens, il n'a pas revendiqué son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Il s'est anéanti. Bon. Je me dis là, il y a toute une piste à développer. Et je trouve que ça nous rejoint, nous, dans le fait que nous sommes baptisés. C'est-à-dire plongés dans la mort du Christ pour devenir des êtres nouveaux. Et qu'il nous faut passer par la mort, l'humiliation, l'humilité peut-être, oui, enfin... Bon, vous voyez tous ces mots-là, attention, il ne faut pas s'en servir n'importe comment, mais je me dis que pour être déjà ressuscité, il faut partager quelque chose de la vie du Christ humble, pauvre, dépouillé. Je ne vais pas plus loin. Vous voyez, ce sont des petites ouvertures que m'ont sauté aux yeux. Deuxième point, notre présence aux pauvres. Alors j'ai beaucoup apprécié les témoignages, quoi. Ceux qui vivent ça, c'est pas pour eux qu'ils le vivent, c'est vraiment pour l'Église. Ça ne leur appartient pas en propre, enfin je sais pas comment dire, ils n'ont pas à le garder pour eux, quoi. C'est à travers eux, c'est l'Église tout entière qui doit être présente aux pauvres. Le témoignage de Robert Courgeot aussi, vous avez pu relire, quoi. Hein. Et sa présence à Emmaüs. Et puis j'ai vécu, moi, dans ma paroisse, quelque chose de ça. Vendren a son église fermée depuis 5 ans et la communauté chrétienne s'étiole. Elle se disperse pour aller à la messe un peu à droite à gauche. Il y a à peu près 70 personnes qui sont pratiquantes. Et puis beaucoup d'autres, mais qui ne suivent pas. Y compris le parti de plus se retrouver avec les autres chrétiens. Quoi. Et je dis la messe une fois par semaine, un jour par semaine, dans une salle, dans un local, petite salle pour accueillir les gens. Bon. On est habituellement 3, plus moi. Et vraiment des pauvres. Il y a Monette qui a 92 ans et qui fait le chemin de chez elle pour venir à la messe. Mais elle vient que lorsque c'est à ce local, lorsque c'est à la Marpa, elle ne peut pas venir, c'est trop loin. 92 ans, elle a du mal à marcher. Elle vient par tous les temps. Elle est là. Il y a Marie, 92 ans, elle aussi, qui s'occupe de préparer les trucs, voilà, les sacristaines, voilà ça. Et puis, il y a Marie-Madeleine qui remplace Marie quand elle ne peut pas, et elle vient de temps en temps, mais quand elle n'a pas à faire, ben, elle ne vient pas à la messe. Et puis, Christian, un noble du pays, qui a beaucoup travaillé pour l'Église, la famille a beaucoup donné pour l'Église, qui vient là, et chaque fois qu'il y a des enfants à la maison, qui est en vacances, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, il les emmène à la messe. Et quelquefois, on se retrouve à 15, parce que des enfants de 3 ans à 17 ans, qui se trouve là. On est vraiment un lieu de pauvreté. Eh bien, je me suis surpris l'autre jour à dire, mais on est missionnaire. Chaque fois qu'on se retrouve, on se dit, mais est-ce qu'on peut se donner des nouvelles des uns et des autres? Et puis, on découvre des gens qui venaient communier autrefois et qui communient plus parce qu'ils ne peuvent plus sortir. Et personne n'a songé à leur porter la communion. C'est-à-dire, on s'apprend à devenir missionnaire, à dire, mais on les a oubliés, ceux-là. On les a oubliés. Et l'autre jour, je suis allé voir un gars qui est très handicapé. Sa maman l'a emmené à la messe avec lui. Maintenant, elle est trop vieille et ne peut plus bouger. Personne ne s'occupe d'aller la chercher. Et de l'emmener ici, ou de leur permettre. Et donc, vous voyez, je sens que dans nos pauvretés, en s'occupant des plus pauvres, on a des choses missionnaires à vivre, quoi. Alors, ben, on prie pour la paroisse, on prie pour les autres, pour tous ceux voilà, qui habitent là. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais pour moi, c'est vraiment un lieu de fécondité. Et on entendait ce matin avec Étienne Rieux le sentiment de la présence de Jésus. Ces gens les plus pauvres nous appellent, nous disent, on sait qu'il est là. Il y a une relation d'alliance avec le Christ. Et donc je l'entends, moi, à travers ces plus pauvres. Et ils savent que peut-être dans 2 ans, 3 ans, ils ne seront plus là. Mais quand même, ils tiennent leur place. Troisième point, on a parlé de l'importance de rencontrer les plus pauvres, enfin les plus... Voilà, de rencontrer des gens qui sont loin de nous, dont nous sommes loin. Mais je voudrais parler de notre pauvreté personnelle. Notre pauvreté personnelle. je le vais développer sur trois points. D'abord, peut-être qu'on a perdu le sens de notre pauvreté, de notre péché. Regardez le mal qu'on a dans le milieu rural, au moins, à vivre le sacrement de réconciliation. On ne sait plus comment faire. Il n'y a pas beaucoup de prêtres à disposition. Et puis finalement, peut-être qu'on n'est pas si mauvais que ça. Et on perd de vue ce qui nous éloigne de Dieu. On ne sait plus ce qui nous éloigne de Dieu. Et j'ai beaucoup aimé faire ce travail avec des gens qui disaient « Moi, je vois pas mon péché, je vois plus mon péché. » Et donc là, on a, je crois, un petit chemin à faire. Deuxièmement, il y a notre impuissance face aux situations très compliquées que les uns et les autres rencontrent. Quelle impuissance on a lorsque dans une famille, il y a des enfants qui s'en vont à volo, quoi. On ne sait plus où ça va, quoi. Et là, on touche de près notre pauvreté. J'accompagne une personne qui est schizophrène. Et là encore, elle a essayé de se suicider il n'y a pas longtemps, avoir pris des médicaments. Et elle me dit, j'entends des voix qui me disent, tu es dégueulasse, tu es une salope, tu es une... Voilà. Et j'entends tout le monde me dire ça. Je lui dis, alors, bien sûr, les gens essaient de lui dire, mais tu sais, non, c'est pas... C'est dans ta tête que tu entends ça, mais c'est pas... Mais elle ne peut pas arriver à comprendre. C'est forcément les gens autour. Elle me dit, le monde est méchant. C'est pas possible, quoi. Je peux plus vivre comme ça. Notre impuissance face à ces maladies-là, tu vois. Que faire? Et puis, il y a la petite voix de Thérèse, qui utilisait cette pauvreté personnelle, sa pauvreté personnelle, sa peur, sa peur de déplaire, sa petitesse, quoi. Bon, elle l'a transformée dans une confiance totale. Elle a refusé l'accumulation des mérites. Et là, on entendait ça. Attention, quand on dit « j'ai eu une vie bien remplie, quoi. J'ai fait le maximum. » Eh bien, prenons plutôt à dire « Dieu m'a donné ses dons que j'ai pu mettre au service des autres. J'ai tout reçu pour tout donner. » Et puis, cette idée des mains vides. Je ne vais pas jouer avec Dieu, marchander avec Dieu en disant « Vraiment, je mérite d'être sauvé, quoi. » S'oublier pour aimer gratuitement. De même que nous sommes aimés gratuitement. Donc là, il y a quelque chose à chercher dans la petite voix de Thérèse. Ça, c'était le troisième point. Non, 1, 2, 3. Oui. 1, 2, 3. Et j'arrive au quatrième. Ce que j'ai entendu ce matin avec Étienne Rieu, où il aboutit à la fraternité. Et cette fraternité, elle nous parle. Je dirais que notre moyen de témoin de la résurrection, c'est de vivre en fraternité. Où il nous disait, les gens les plus pauvres savent reconnaître les relations vraies. Et donc, vivre en fraternité, c'est un trésor de relations où l'on essaie d'être vrai les uns avec les autres. Et je retrouvais quelque chose que j'avais expérimenté ailleurs, c'est que quand il y a des tas de réunions, on avait des tas de réunions autrefois, je me souviens au SAB, j'avais 8 équipes à accompagner tous les mois, et ça faisait 8 soirées prises automatiquement. Et je leur disais, on ne vient pas en réunion, on vient vivre une rencontre. C'est un trésor que des gens se libèrent pour se faire le cadeau d'être ensemble, et de chercher ensemble, et de prier ensemble. Et donc là, on a expérimenté cette vie de famille. Et j'aimerais relire dans les Philippiens chapitre 2. Philippiens, oui. S'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage dans l'amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si on a de la tendresse et de la pitié, alors que pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intransigeants ni vantards, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres. Finalement, ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Et essayez de reprendre cela, de voir le poids que ça peut avoir dans une vie de fraternité. Voilà. Et je terminerai par une petite chose que quelqu'un m'a parlé aussi au cours de cette retraite. C'est que il y a un prêtre avec vous disponible pendant la retraite. Et je crois que on m'a dit, oh, mais toi tu fais la retraite, on ne voulait pas te déranger. Moi, je suis là pour accompagner la retraite, pas pour faire ma retraite. C'est-à-dire que j'ai d'autres occasions pour le faire. Mais je suis là disponible pour vous. Et il y en a plusieurs qui sont venus me voir, justement, pour un entretien ou pour se confesser, etc. Et donc, il y a peut-être une manière de rentabiliser un peu la présence du prêtre au milieu de vous, ces vocations différentes qui nous aident à avancer. Quoi. Voilà. Donc, je me dis, il faudrait peut-être que j'aille à Moumont aussi. Bon, là, c'était pas possible, je sais plus ce qu'il y avait. Mais de fait, il faut que je me rende disponible pour vous, aussi pour votre fraternité. Voilà, c'est tout. Merci. Merci.